On écoute Malika. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Vas-y, Malika.
Donc voilà, nous, on se propose avec les copines d'Oran, donc de présenter un peu nos premières appréciations, une réflexion que nous sommes en train de faire depuis quelques jours.
Voilà, bien là.
Donc on se proposait de vous présenter quelques éléments d'interrogation, quelques éléments de notre expérience de ces premières semaines sur le terrain d'Oran, sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de lois civiles égalitaires et la révolte pacifique pour la liberté en Algérie. Moi, je vous avoue que c'est l'une des interventions pour laquelle j'ai eu le plus de difficultés à préparer. Parce qu'on est depuis quelques jours en train de travailler un peu, de réfléchir de manière critique, autocritique et de voir les perspectives pour nous par rapport à cette révolte. Parce que là, la situation nous semble très complexe à nous militantes du pays, la situation de notre combat féministe est très complexe, et puis parce qu'il y a beaucoup d'attaques de démocrates de toute sensibilité, un peu à notre initiative depuis le 5 mars. Alors, nous avons opté pour parler que de notre expérience locale et de notre expérience à nous, et pour intégrer dans un certain nombre de notre analyse, un certain nombre d'hypothèses sur la question de l'égalité et des révolutions. Alors, on a essayé, bon, l'intervention elle est plus longue, mais je vais parler très peu. Donc, c'est une intervention, ça nous a permis même à nous d'avancer un peu dans notre réflexion. On a essayé de la mettre en 4 points. Qui sommes-nous? Avec quelles expériences et enseignements tirés de nos luttes passées nous sommes-nous impliqués dans cette révolte pacifique pour la liberté? On ne vient pas du néant, on a une histoire, on a un combat, on a une expérience, on a des leçons, on a eu des échecs, on a eu des difficultés, mais on a eu aussi des victoires. Donc on part de cette expérience, de ce passé, pour nous situer dans ce combat. La deuxième question que nous avons essayé de traiter, c'est comment avons-nous tenté de nous impliquer dans cette révolte, avec quelles interrogations et surtout avec quelles alliances, parce que c'est le point nodal de notre intervention. La troisième question qu'on a traitée, c'est quelle réaction de nos partenaires, censés être nos alliés naturels. Et la dernière question que nous avons traitée, c'est quelles leçons tirer de cette première expérience courte? Quelle perspective pour la question de l'égalité femmes-hommes dans le cadre de lois civiles égalitaires? Alors, quand je parle de lois civiles égalitaires, certains amis me demandaient, parce que pour nous, c'est la question centrale aujourd'hui, c'est l'enjeu central aujourd'hui, les lois civiles égalitaires. Je ne traite pas la première partie, elle est longue, sur l'expérience de la FEPEC, de 88, quand ça a eu de la prise. On est né en 8 mars 89, dans le cadre du pluralisme politique, donc on a eu 30 ans cette année. Peut-être qu'on en verra, l'intervention, elle pourra peut-être servir, en tout cas on la mettra sur Facebook, la page de l'association et nos pages. Et je traiterai directement du deuxième point, je passerai au deuxième point, parce que c'est du concret. Et nous, on intervient sur des questions qui nous semblent-ils, bon, à contre-courant de ce que vous voyez à la presse, de ce que portent beaucoup de réseaux sociaux qui sont développés. Nous, on a un réseau social très, très peu, on est très faible en matière de visibilité. Donc, mon intervention peut choquer certains. J'ai eu déjà quelques échanges au début, mais c'est notre point de vue qu'on avance, c'est notre combat, etc. Donc, loi civile égalitaire, c'est des revendications qu'on porte depuis 1994. Ça fait 25 ans que notre association affiche de manière... C'est affiché, hein, c'est pas indirect. C'est affiché, c'est assumé l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de lois civiles égalitaires. Ce qui veut dire des lois qui sont en dehors de toute référence religieuse. On l'a fait il y a 25 ans. Donc il nous paraît normal, naturel, évident de rester sur cette revendication 25 ans après. Voilà. C'était important pour nous de le dire. Et donc aujourd'hui, on ne fait rien d'autre que ça. Alors comment avons-nous tenté de nous impliquer dans ce mouvement? On s'est impliqué en tant qu'association à deux niveaux. D'abord en tant que féministe, avec des amis féministes d'autres associations, notamment le Petit Lecteur, avec des amis féministes universitaires. Et un deuxième niveau, c'est en tant qu'association, on s'est aussi impliqué avec des associations, quelques associations qui se disent plus ou moins politiques. Je vais prendre les deux expériences. Alors, pour ce qui est de notre intervention en tant que féministe, on est sorti, le 22, on n'est pas sorti comme beaucoup de militants, on n'est pas sorti le 22. On s'est interrogé sur qui appelle à cette révolte, interrogation que nous avons jusqu'à aujourd'hui, à laquelle on n'a pas toujours pas de réponse. Et donc, le 1er mars, on a commencé à se concerter après le 22. Et le 1er mars, donc des féministes de la FEPEP, du Petit Lecteur, des universitaires, on est sortis, mais en tant que marcheurs. Sans plus, on a marché, on a discuté. Et le 2 mars, on s'est vu et on a essayé de parler du 8 mars. Le 8 mars, c'est le 30e anniversaire de la FEPEP. Donc, c'est pas rien pour nous. C'était un double symbole et puis ça coïncide dans un contexte où il y a une révolte pacifique, populaire, pour la liberté. Donc on s'est dit, dans ce contexte, nous voulions, comme chaque 8 mars, célébrer ce 8 mars sous le signe, et le marquer, c'est la journée internationale pour les droits des femmes. Donc il nous semblait anormal de sortir un vendredi 8 mars sans faire allusion à la journée, sans faire allusion à notre 30e anniversaire, et sans faire notre communiqué, comme depuis 30 ans, chaque 8 mars, on fait notre communiqué avec notre analyse, nos revendications. Donc on s'est concerté avec les copines, on a fait quand même une large concertation avec des jeunes, avec d'autres associations, avec des militants, et on a décidé de sortir le 8 mars en tant que carré féministe. C'est pas un carré des femmes, hein, c'est un carré féministe, donc notre optique, c'est d'avoir des femmes et des hommes. Et donc la FEPEP, sur cette base, a fait son communiqué avec son trois points. Un, on informe qu'on sortira en tant que comme carré féministe. Deux, il y a quatre revendications. La première, c'est contre le système mafieux rentier. La deuxième, c'est pour l'Algérie libre, démocratique et sociale. La troisième, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Et la quatrième, c'est loi civile égalitaire. Ces quatre revendications, donc on ne sort pas uniquement pour les femmes, on sort dans un contexte politique particulier. Nous sommes des militantes qui avons, dès la création de la FEPEP, nous sommes des militantes politiques, dès la création de la FEPEP, on a inscrit le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans un combat pour la démocratie, pour la liberté, et c'est un combat politique. Nous sommes des militantes féministes, nous sommes des militantes politiques. C'est pas un combat social, c'est pas un combat caritatif, c'est pas un combat culturel au sens classique du terme. Donc une fois qu'on a fait le troisième point de notre communiqué, c'était un appel aux démocrates algériens à s'unir autour d'une plateforme dans laquelle nous afficherions clairement, explicitement, et nous assumerions nos valeurs, dont la valeur de l'égalité entre les femmes et les hommes et les lois civiles égalitaires. Ça, c'est le communiqué de la FEPEP du 5 mars. Et nous partions aussi de l'idée que les années 90, ce que nous avions échoué, c'est justement cette plateforme des démocrates. Les islamistes avaient leur plateforme, avaient leur projet. On a beau dire qu'ils sont désunis, mais il y a un projet de société des islamistes et les rôles sont différents. Ce que nous, démocrates, avions raté en 90, c'est nous affirmer, nous identifier comme démocrates avec un projet politique claire, avec un projet de société claire. Après, à celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin, de se négocier avec des islamistes, avec le système, avec X, avec Y, libre à elles et libre à eux. Donc nous, notre demande, ça nous semblait une petite demande modeste, démocrate, algérien, unissons-nous et affichons nos valeurs. Voilà le communiqué de la FEPEP. Dans la deuxième partie que vous verrez un peu toutes les démarches, toutes les attaques dans Facebook, pas par les islamistes au départ, par les démocrates ou les dénigrements. Ça a été, moi je dis souvent, enfin je dis à beaucoup de copines et copains, entre le 5 mars et le 22 mars, ça a été la journée de quelques militantes, pas les jeunes, parce qu'elle est jeune, elle n'a pas vécu l'islamisme, de quelques militantes qui ont vécu, qui ont combattu dans les années, la décennie noire, l'islamisme. Ça a été la période la plus douloureuse politiquement de notre vie, entre le 5 et le 22 mars. C'est très lourd à dire, Heureusement, Saïd a parlé des marches. Heureusement qu'il y avait les marches. Heureusement qu'on a marché pendant toute la première et deuxième semaine avec les étudiants. On est sortis. Les vendredis, on sortait. Donc, on a marché le vendredi 8 mars avec notre banderole pour des lois civiles égalitaires en arabe et en français, avec nos 13 pancartes reprenant les 4 revendications. Nous avons marché. Il y a eu des jeunes, beaucoup de jeunes de quartier qui marchaient avec nous. Et on scandait les mêmes mots d'ordre. Les jeunes portaient la banderole, portaient les pancartes, prenaient des photos avec les pancartes. Et à la fin de la marche, en arrivant en place d'armes, on discutait, on dansait. On a beaucoup dansé, les deux premiers, le 8 et le 15. Donc, tirant les leçons. Et puis, ce qu'on a fait, ce que la FEPEC ne fait jamais, en 30 ans d'existence, on informe Facebook de ce qu'on va faire. Mais nous n'avons jamais fait sur Facebook des photos, des commentaires. On n'a jamais fait des comptes rendus de nos activités. On n'est pas Facebook du tout. Là, les jeunes ont posté sur la page de l'association donc les vidéos et un compte rendu de la journée de vendredi, ce qui a montré un peu la réaction des jeunes de quartier qui étaient là, où des jeunes n'ont pas été choqués, ne nous ont posé aucune remarque négative. Ils étaient avec nous. Et on n'a pas eu de problème du tout dans cette journée quand on a marché. Alors, bilan à chaud, nous avions considéré que c'était une marche très positive pour les féministes, que les contacts avec les jeunes ont été bons. Et on a décidé le soir même, avec les copines dans le siège, à sortir le 15 aussi en tant que carré féministe. C'est ce qu'on a fait le 15. On est sorti avec la même banderole, d'autres pancartes. Et on a marché aussi avec des jeunes. On a posté des photos, un compte rendu et des banderoles. Le 22 mars, c'est la journée à la mémoire. Enfin, ça, le 22 mars 1993, c'était la première marche, enfin une des marches de résistance aux islamistes. Et on met en hommage aux victimes du terrorisme. La FEPEC est l'une des initiatrices de la marche du 22 mars. Donc, à Oran, comme dans beaucoup de villes, depuis une dizaine d'années, donc il y a cette journée commémorée. Donc, nous, le vendredi 28 mars, on est sorti, on a appelé à sortir en mémoire aux victimes du terrorisme. Donc, on a fait une belle banderole, non à l'oubli des victimes du terrorisme. On a pris 10 photos de militants d'Oran, militants et non militants, Cheikh Hesni, les chanteurs. Et puis, trois ou quatre pancartes de femmes, parce qu'à Oran, on n'a pas eu de femmes qui ont été assassinées connues. On a pris des pancartes de femmes militantes et les jeunes qui ont été assassinées. On a fait notre marche avec un mégaphone qu'on avait pu débrouiller. On a scandé pendant toute la marche les mots d'ordre classiques, mais en plus les mots d'ordre de non à la mafia, non à l'islamisme. On est arrivé au théâtre régional d'Oran et on a fait notre meeting en rappelant la destinée noire, les crimes islamistes et en rappelant qui étaient les personnes qu'on portait en photo. Donc, ça c'était le 22 mars. Et le 29 mars, donc, on a fait la même marche, le 6 avril et le 12 avril. Donc on a fait 6 marches dans le cadre de carré féministe à Oran. Et le 29 mars, le 12 avril, pardon, bon, je ne vais pas lire, on a fait un petit résumé. Et les leçons qu'on tire, nous, de ces marches de carré féministe à Oran. Je ne vais pas le lire pour ne pas perdre du temps. Il est sur la... on a fait la marche de 29, de 12. On a discuté avec les jeunes au départ de 14h à 15h. En arrivant en place d'armes, on a discuté avec des jeunes jusqu'à 19h15. Et on fait un peu dans le compte rendu des échanges qu'il y a eu, un échange respectueux, pas toujours d'accord, bien sûr, surtout sur la question de l'héritage. Mais ce qui est impressionnant, ce qui est nouveau pour nous, militantes, on n'est pas jeunes, hein, il y a des jeunes, mais nous, on est moins jeunes, nous n'avons jamais discuté dans la rue de ces questions d'égalité. C'est la première fois que nous le faisons dans la rue, on discute avec des jeunes qu'on ne connaît pas sur cette question, et en parlant, en expliquant ce que c'est loi civile égalitaire. Ça ne veut pas dire que ces jeunes ne vont pas voter islamiste, ça ne veut pas dire que ces jeunes vont voter démocrate, on n'en sait rien, mais on a pu discuter avec des jeunes. Certains ont été d'accord, d'autres pas, mais il n'y a eu aucune violence, à part deux fois. Le 22, c'était pour les photos des terroristes. Deux nous ont dit, vous êtes en train de créer le fitna, en rappelant la division, en rappelant les crimes des islamistes, alors que ce n'est pas les islamistes qui ont tirés, qui ont assassiné. Et le 29, il y a eu des jeunes qui nous ont agressés en nous disant qu'on n'avait pas le droit de sortir parler de loi égalitaire. Mais comme il y avait d'autres jeunes avec nous, ils les ont très vite éloignés. Ça, c'est en tant que féministe, dans les marches de vendredi. Maintenant, en tant qu'association féministe, mais aussi politique, on n'est pas un parti, mais on est une association politique, on a été, dès le 22, donc on a créé un groupe messenger avec des militants de 8 associations, la Ligue des droits de l'homme, RAGE, Rassemblement Action Jeunesse, Jezaïrouna, SOS Disparu, FARD, AFEPEC. On était 8 associations, donc le 22, vers midi, on a créé ce groupe. C'était pour échanger, suivre un peu l'évolution et se concerter sur ce qu'on peut faire ensemble. Donc l'AFEPEC était dans ce groupe, on a essayé un peu chacun dans ses pages Facebook de coordonner et d'informer, notamment sur les premières arrestations de la première semaine, des militants des droits humains, des militants de RAGE. Il y a un premier texte qui est sorti le 23 ou le 25, je crois, quand les militants étaient arrêtés. On était 5 associations dans l'AFEPEC. Il y a eu un deuxième texte de 8 associations dans l'AFEPEC. Il y a un troisième texte qui a été... Je parle de cette expérience parce qu'aujourd'hui, ce collectif a un rôle, qu'on le veuille ou non, important dans l'une des propositions de sortie de crise. C'est ce collectif d'associations qui est en train pratiquement de jouer le rôle de médiation, de contact, de concertation avec les partis politiques, etc. Donc c'est un collectif important dans lequel la FEPEC était et s'est retirée. Et je donne rapidement ces informations qui sont vérifiables, qui sont sur Facebook, sur les pages Facebook et des membres de ce collectif et de nos pages. Donc il y a un troisième texte le 6 mars. Et nous, le début mars, on a appelé ce collectif à faire un texte en intégrant la question d'égalité. Donc le 6 mars, on reçoit un texte. Le 6 mars. C'était le début de... Le 6 mars, on reçoit un texte avec, à notre grande surprise, un terme compromis historique. Donc ce mouvement, ce collectif des associations va faire un compromis historique. Et puis on ne voit pas l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc on a reçu... par écrit. Pourquoi j'insiste par écrit? Parce que la technologie, elle a ses avantages dans le cadre de bilan et d'évaluation politique. Nous posons la question, c'est quoi le compromis historique? C'est avec qui et autour de quoi? Nous, militantes anti-islamistes, quand on voit compromis historique, c'est avec les islamistes. On peut se tromper. Alors on pose la question. Deux, on propose d'intégrer la question de l'égalité entre les femmes et les hommes et les lois civiles égalitaires. Une heure après, on nous dit, problème, texte est gelé. Quelques jours après, nous on fait notre texte, on fait le 8 mars. Quelques jours après, ce collectif fait 2 communiqués, le 11 mars et le 13 mars, avec compromis, pratiquement le même texte qui est repris, compromis historique, on ne sait toujours pas avec qui et autour de quoi, et pas d'égalité. Quatrième texte, idem, le même texte un peu écrit différemment. Et puis, il y a une réunion... du collectif qui était prévu le début mars, elle a été reportée au 16 mars. La FEPEC est invitée, on tient à discuter. Mais on vient, si c'est clair, la question d'égalité, elle est à l'ordre du jour. Si au départ, vous ne voulez pas qu'on parte, nous déjà, sur cette question, on ne vient pas. Bon, on nous dit, mais la question d'égalité, elle est intégrée dans les valeurs, dans les libertés individuelles et collectives. Mais c'est évident. C'est évident, pourquoi vous voulez poser problème? Personne n'est contre. Liberté individuelle et collective, c'est évident. Droits humains, c'est évident. Mais l'égalité entre les femmes et les hommes, elle est partie intégrante des droits humains. Nous, on dit, bon, pour vous, c'est évident. Nous, on a vécu les années 90, c'était pas évident. Ce n'est pas évident. La question de l'égalité entre les femmes et les hommes n'est évidente dans aucune ligue des droits humains, y compris la Ligue française. Donc, les ligues des droits humains, leur proximité avec les islamistes et l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas évidente. Je n'accuse personne, mais pour nous, elle n'est pas évidente. Et puis, si elle ne vous pose pas problème, pourquoi ne pas la mettre? Comme ça, nous, on sera tranquille. Bon, on nous dit, non, liberté individuelle et collective, ça arrange tout le monde. Nous, on dit, alors, bye bye, bon courage, etc. Alors, donc, le 16 mars, on nous invite à venir. On dit, on ne vient pas pour telle raison. Le 16 mars, mais comme on est toujours dans le même groupe et on discute et on échange, le 16, 17, le 18, on les appelle et on leur dit, mais quel est le... On n'a pas reçu de communiqué, qu'est-ce que vous avez décidé? Alors on nous envoie en privé un texte où il y a le terme égalité, mais quand même, nous ne sommes pas des jeunes militantes, on a de l'expérience. Égalité aujourd'hui, les islamistes, moi je les suis de près, les islamistes depuis 2015, ils utilisent le terme égalité. Nahnah, un des dirigeants d'un parti Hamas en Algérie, dans la campagne électorale présidentielle de 1995, il a utilisé le terme de la liberté de choix pour les femmes et l'égalité. Point. 95. Il a utilisé le terme égalité, après il leur donne leur contenu. Donc nous, on a répondu dans le groupe publiquement, avec un texte, comme ça on ne nous dit pas qu'il y a eu des malentendus, on a répondu pourquoi la FEPEC, qui était dans ce collectif, qui était l'une des initiatrices de ce collectif, aujourd'hui, Nada se retire de ce collectif, parce que la question d'égalité entre les femmes et les hommes, elle est niée. Point. Donc ce collectif a entamé, on disait que pour nous, tout texte qui nie la question d'égalité entre les femmes et les hommes, on peut en discuter, on le démontre. C'est un texte qui est proposé aux islamistes, qui est fait avec les islamistes, qu'on nous dit islamistes qui sont modernes, hein, c'est plus des modérés modernes. Les islamistes 2019, ils sont modernes. Donc nous, on l'avait dit, et puis on commentait chez beaucoup de copains en leur disant, ça, vous êtes en train de préparer le compromis avec les islamistes. Quelques jours après, ce même collectif a commencé les consultations avec les partis politiques. Et l'une des premières personnalités, les deux premières personnalités qui ont été rencontrées, c'est le président du PST, parti de gauche, et Diabellah. Diabellah, c'est le président du parti islamiste qui existe depuis la décennie noire. C'est pas un simple islamiste, c'est le frère musulman. C'est un frère musulman, c'est les idéologues de l'idéologie islamiste. C'est eux les dangereux, ils sont plus dangereux que les terroristes. Les terroristes, c'est le bras armé. Mais les vrais idéologues, les vrais porteurs de l'idéologie totalitaire fasciste, c'est les frères musulmans dans Diabella. Alors là, on a eu un débat, tout le monde peut le voir, sur la page de Saïd Salhi, qui est vice-président de la Ligue. On a eu un débat public, musclé, mais de notre point de vue, très enrichissant. Parce qu'il a permis de mettre à nu publiquement nos contradictions et que nos appréhensions se sont avérées, elles se sont vérifiées. Alors, pas plus tard qu'il y a 3 ou 4 jours, il y a un texte intitulé « Manifeste pour une Algérie moderne » qui a été diffusé dans des groupes par une membre de ce groupe. Alors, dans ce texte, alors ça c'est nouveau, on a vu des copains avocats de rang engagés, ils nous disent qu'on n'a jamais vu un texte pareil. Dans les considérants, il y a égalité pour les femmes et les hommes, entre les femmes et les hommes. Mais dans les affirmants, nous affirmons, il n'y a plus l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a disparu. Alors on va voir un avocat pour dire, attends, peut-être qu'on n'a pas très bien compris. Il nous dit non seulement les considérants, c'est des hypothèses, sur quoi on se base. En principe, tous les considérants doivent sortir dans les affirmants. Et là, il y a une contradiction en plus du fait qu'elle n'existe pas. Alors il y a 3 questions qui se posaient à nous. Pourquoi alors, si la question d'égalité n'existe pas, pourquoi elle a été dans les considérants? Moi, je vais vous répondre par une anecdote. Une copine avec nous, hein, féministe du carré féministe, elle nous appelle, elle nous dit, on a gagné, le texte vient de tomber, il y a l'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, je ne l'avais pas encore lu, je le lis. Je lui dis, non, c'est dans les considérants. Donc, l'égalité entre les femmes et les hommes, ils l'ont mise, de notre point de vue, parce que nous n'avons pas arrêté de taper et de dire, là où il n'y a pas égalité entre les femmes et les hommes, c'est un texte qui va aux islamistes. Donc, ils l'ont mis. Beaucoup de copains qui l'ont signé pensaient qu'il y avait l'égalité entre les femmes et les hommes. Ils l'ont vu. Ils n'ont pas compris qu'il y avait 2 parties. Donc nous pensons que c'est une arnaque bien étudiée, sournoise, subtile, et ce n'était pas innocent. C'est une stratégie qui est élaborée depuis le début. La deuxième question qu'on nous pose, parce que quand même je vous donne la bonne nouvelle, dans ce texte il y a l'état civil. État civil, ça veut dire un état où il n'y a pas, où le religieux et le politique sont séparés. Donc quand on voit ça, on se dit, bon, on a gagné quand même. Comment? Alors les gens nous disent, mais vous féministes, comment vous dites? C'est erroné, c'est pas crédible de dire que c'est un texte qui est fait pour les islamistes aussi. Alors nous, notre réponse, elle est simple. Les islamistes de 2019, c'est pas les islamistes de 90. Ils sont très intelligents, ils ont tiré les leçons de notre expérience. La Tunisie, l'Égypte, puis il y a un contexte international. Il y a une concertation, bon, on ne va pas rentrer dans les... Mais ils travaillent avec les États occidentaux. Il y a des concertations, il y a des accords, il y a des complicités. Et là, on a, et comme l'article 2, l'islam, religion d'État, ne concerne que le droit de la famille. Dans les pays dits musulmans, la charia, l'islam, religion d'État, ne s'applique nulle part. Ne s'applique que pour ce qui est du droit de la famille. Donc les islamistes intelligents, ils acceptent l'état civil, parce qu'en fait, ils ne perdraient rien. Mais la ligne rouge de l'égalité entre les femmes et les hommes, elle n'y est pas. Et puis l'état civil, ces démocrates algériens, les démocrates anti-islamistes sont nombreux dans le camp démocratique. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Ils pèsent, ils ont un poids dans l'échiquier démocratique. Les féministes font partie des anti-islamistes, mais ne pèsent rien. Donc les démocrates sacrifient la question d'égalité entre les femmes et les hommes, mais les islamistes, intelligents comme ils sont, ils ont accepté, ça c'est notre analyse à nous, hein. Le texte, il dit l'état civil, ont accepté de signer, vont accepter de signer ce texte. Voilà, donc pour terminer, je crois que j'ai pris trop de temps. Voilà, alors, pour terminer, moi, ça y est ? Alors, les leçons qu'on tire. Un, c'est que nous, c'est la première fois qu'on discute de cette question, de la religion, des lois civiles, de l'héritage dans la rue, avec des jeunes, avec des femmes, avec des vieux et des moins jeunes. Pas avec des militants. Et j'ouvre une parenthèse. Le seul fond, on a discuté. La discussion était intéressante du point de vue intellectuel, mais la moins intéressante pour nous militantes, c'était avec un jeune militant de SIG. Très bien, on en parle dans le papier. Alors, la deuxième question, on pense qu'aujourd'hui, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, dans le cadre de loi civile égalitaire, elle a constitué, depuis le début de cette révolte, un enjeu de négociation, et j'assume ce que je dis, hein, entre des forces à l'intérieur du système, entre les islamistes et entre les démocrates. Depuis le début, il y avait une négociation pour voir jusqu'à quel point on va, oui ou non, avancer dans l'égalité et avoir, oui ou non, l'accord des démocrates, des anti-islamistes. C'est ce qui explique un peu l'acharnement des démocrates et ce qui était inexpliqué pour nous, petit à petit, on a compris. La deuxième chose, c'est la seule revendication que les islamistes dans le monde entier n'accepteront jamais dans aucun pays du monde. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Et si on la franchit, il n'y aura pas d'alliance avec les islamistes. Alors, trois, à celles et ceux qui nous demandent, alors vous, en tant que féministe, pourquoi, par exemple, on n'a jamais vu dans vos pancartes, dans vos textes depuis le 22 février, la revendication d'abrogation du code de la famille? Alors, nous, on répond, on est dans un changement, une révolte pacifique. On est dans une révolution pour un changement radical du système. On est dans un nouveau paradigme. Nous, on est en train d'avancer la revendication de lois civiles égalitaires. Une fois qu'il y ait les lois civiles égalitaires, le code de la famille est caduque, il n'existe plus. Demander l'abrogation du code de la famille, c'est aller aussi avec les islamistes. Les islamistes, aujourd'hui, ils demandent l'abrogation du code de la famille, ils sont prêts, ils ont des propositions pour améliorer un petit peu le code de la famille. Donc nous, on dit, ça c'est une... C'est pas ça le fond. On est dans un monde nouveau. On est dans une problématique nouvelle de la question féministe. On est dans des analyses nouveaux et dans des paradigmes nouveaux de comment concevoir le combat féministe aujourd'hui en Algérie. Et c'est pour ça que nous, on est restés dans la question de loi civile égalitaire. Alors, nous, quelle que soit l'issue, on n'est pas qu'optimiste hein, sur la question de l'égalité, quelle que soit l'issue que prendra ce mouvement, parce que nous, il y a un scénario que nous voyons, nous disons que ce texte pour l'Algérie nouvelle, qui est signé par beaucoup d'amis à nous qui n'ont pas fait attention et qui va signer probablement largement, puisque toutes les forces s'y mettent, il peut être un moyen de mettre fin pratiquement à la révolte, un moyen de proposer un collectif national de représentants de la société civile, sur lequel tout le monde sera d'accord, et un moyen aussi d'avancer. Et voilà, on existe, ça y est, on a réglé le problème, il y a un projet qui fait adhérer tout le monde. Je dis, c'est notre analyse, hein. Et donc, nous, quelle que soit l'issue de cette situation pour nos revendications égalitaires, nous continuerons notre combat, comme depuis 1994, sur les lois civiles et égalitaires. Et nous sommes convaincus que quand la situation se stabilise, quand l'arnaque arrêtera, quand les gens qui ont entre leurs mains, qui ont l'argent, qui ont des puissances politiques, ça va être parler des gens qui ont toutes les forces. Nous, on est très petites, hein, on est un petit mouvement très faible. très insuffisant, très faible par rapport aux forces en face. Nous sommes convaincus que les démocrates sincères, les militants sincères, quand tout se stabilise, ils vont voir plus clair, ils vont comprendre nos positions, ils vont comprendre pourquoi il y a un acharnement contre nous, et nous sommes sûrs qu'ils reviendront à notre revendication et on leur dira bienvenue au club, on sera plus forts et plus nombreux. Et merci.
Merci Malika pour ce point de vue.